Bien, alors si je me souviens bien, la semaine dernière, nous avons commencé à étudier ce que José appelait les sursis qui ont été donnés à la civilisation de Caïn. Et le premier de ces sursis était un signe qui est placé sur Caïn que la vérité doit dire s'il avait été vraiment coupable, assassin, dans le sens habituel du terme, ou s'il s'agit d'autre chose, par exemple, une vengeance de justicier. Vous vous rappelez de cela? Et donc, la Torah nous annonce que pendant cette génération, cette identité humaine, comme elle a commencé son histoire, sera protégée par le sursis de l'histoire. C'est-à-dire que le jugement de l'histoire dévoile ce qui s'était passé à l'origine, lorsque dans la relation entre les sujets humains que nous voyons à la deuxième génération, Caïn et Abel, il y a eu cet échec que Caïn a supprimé la réalité de l'homme frère. Et le deuxième sursis a été le fait que va être engendré à Caïn un enfant qui s'appelle Hanor dans le texte et qui d'une certaine manière pourrait représenter un substitut de cette fonction de fraternité que Caïn avait supprimée en supprimant Abel. Et nous voyons tout de suite qu'il y a parallèlement à chacun de ces sursis, la description de l'échec lorsque l'échec arrive, et l'échec est arrivé, c'est qu'il y a une tendance à considérer que le problème de la société humaine n'est pas le problème moral de la relation des personnes entre elles, mais le problème de la gestion de la cité, le nom est pris à l'homme et est donné à la ville. Vous vous rappelez de cela? Et donc il y a une tendance à l'impersonnel qui va s'installer de plus en plus, et qui va rendre finalement ces sursis caduques, enfin inopérants, inefficaces. Jusqu'en fin de compte, à la fin de l'histoire de cette civilisation, à la fin des générations, la violence et la, je dirais même, une saturation de violence s'installe sur Terre, et il y a la sanction du déluge qui va effacer ce type d'humanité. Mais entre-temps, il y a d'autres sursis qui vont apparaître. Je vous avais annoncé la dernière fois qu'on irait assez rapidement, parce que c'est une étude trop longue. Je vais vous donner, si vous voulez, en plan, la liste de ces sept sursis, avec les références des versets qu'il faudrait étudier pour les mettre en évidence. Mais on choisira deux ou trois des plus importants, tout importants, mais enfin, surtout ceux qui nous permettraient de diagnostiquer le problème d'un homme dans la société contemporaine. Alors, vous allez prendre d'abord le chapitre 4, et vous noterez, si vous voulez, tous ces versets. Ce n'est pas mon livre habituel, ça va prendre un peu de temps. C'est un Torah Mion ? Accès. Bien, alors vous avez donc le premier sursis est indiqué. Verset 15 du chapitre 4, c'est le signe qui est attribué à Caïn, un signe de protection par le jugement. Ensuite, verset 15. Hein? Ensuite, la naissance de Hanor, c'est-à-dire le fait que l'identité du fils comme tel peut devenir cette autre qui avait été annulée avec le frère. C'est Hanor, ça vous l'avez au verset 17 du chapitre 4. Et dans le même verset, l'échec, lorsque Caïn donne le nom de Hanor à la ville qu'il avait fondée. Et nous avons eu, si je me souviens bien, une allusion à ce qui se passera à Shrem, ensuite dans la famille des patriarches. Ça, on a vu cela. Quand nous y arriverons, nous referons de nouveau le parallèle. Et puis, les engendrements continuent, mais devient impersonnel, ça avait été signalé d'ailleurs par Joseph la semaine dernière, si je me souviens bien, et on arrive à la description de la société fonctionnelle que vous avez au verset, à partir du verset 20 du chapitre 4. Lorsqu'on arrive à la sixième génération, l'homme qui est engendré est nommé Lémer. Et Lémer a deux femmes, là aussi il y a un problème très important, Mais je me demande si je vais ouvrir une parenthèse, peut-être. Bon, en tout cas, on nous signale que les mechal befam, c'est donc c'est important de le signaler. Je vais ouvrir tout de suite cette parenthèse. Là, la dignité, le dernier refuge de la dignité de la personne humaine va disparaître. La Midrash réintègre ce qu'il y a entre les indications claires des versets. On a pris l'habitude, en ce temps-là, d'avoir deux femmes, une pour la procréation et l'autre pour être, je ne sais pas comment dire, la maîtresse de maison, la poupée de salon, je ne sais pas comment dire ça. Vous verrez ça dans les Midrashim. L'une s'appelle Adam et l'autre s'appelle Tzila. Alors, à tour de rôle, les mères vont engendrer de Ada deux enfants et de Tzila deux enfants. Prenez à partir du verset 20. Batele Ada et Yub et Yavai. Kouaya Avi Yoshev et Mikne. Vous voyez, on ne définit plus simplement l'homme par son nom, mais par sa fonction dans la société. C'est pourquoi je vous ai appelé ça la société fonctionnelle, c'est-à-dire l'éclatement ultime de l'impersonnel dans la société. Ce n'est plus un homme, la personne humaine, sa dignité et sa valeur, c'est un métier. Vous voyez à quel point la Torah, de façon très précise, nous indique les structures d'une société qui va à l'échec du point de vue de la moralité. Ça passe par la fonctionnalisation, si vous voulez, mais en tout cas, surtout, comme nous l'avons vu déjà dans le cours précédent, l'impersonnel qui devient le critère de la vie, donc de la non-valeur de la vie, et le problème moral est évacué. Le problème moral comme tel, c'est toujours d'abord la relation de dignité de personne à personne. Et ça, nous avons étudié tout au début de l'année, le problème difficile que l'histoire humaine a résolu. Comment faire coexister deux sujets humains? Parce que dès que deux sujets humains coexistent, il risque d'y avoir une victime et un assassin. C'est le plan même du récit. Et on évacue le problème moral et on lui substitue ce que les philosophes contemporains appelleront le problème de la sociologie, c'est-à-dire la gestion de l'impersonnel de la cité. Bien entendu, ces deux réalités sont en conflit. L'âme humaine garde la nostalgie de la moralité, elle est aux prises avec les problèmes de la légalité. Dans toute société, il y a un conflit entre l'exigence morale et les nécessités légales. Je pense que vous comprenez ce que cela implique. Et finalement, les sociétés se distribuent suivant le choix, l'option qu'elles font, plus de moralité ou plus de légalité. Un problème difficile, même dans la société juive, redevenue souveraine politiquement, la société israélienne est-elle aussi aux prises avec ce problème? Qu'est-ce qui passe d'abord? La morale ou la légalité? Nous aurons très souvent à nous référer à cela. Et alors donc, la première fonction, c'est la fonction des métiers qui aboutissent à la nourriture, à donner à manger. L'agriculture. Voilà, Yaval représente l'agriculture. Vous remarquerez que tous les noms qui vont nous être donnés ressemblent dans la racine fondamentale à Hevel. Comme s'il y avait là encore un sursis de tentative de récupération de cette fonction pastorale qu'avait Abel. Le frère de Yaval s'appelle Yuval. Et lui, il est l'ancêtre des musiciens. Et j'essaierai rapidement de caractériser cette mise en place des fonctions de la société. D'abord, l'agriculture, et puis la distraction de ces métiers de l'agriculture. Et je vous donne une analyse très schématique, très rapide, mais je pense que vous vous référez à votre propre culture générale. Vous voyez, c'est une société agricole avec comme corollaire les arts champêtres. Voilà à peu près comme on pouvait dire ça. Deuxièmement, alors, lorsque c'est le tour de Tzila d'avoir des enfants, et là c'est Ada qui rejoint le salon, si j'ose dire, alors Tzila, c'est au verset 22, Tzila Gamé Yalda et Tuvalkaïm, et ici une expression extraordinairement suggestive, les deux noms à la fois. Tuval, ça ressemble à Hevel, Caïn, c'est Caïn. Alors c'est ce fameux Vulcain dont je vous ai parlé la semaine dernière, le forgeron. Ça récapitule l'ensemble des métiers qu'on pourrait appeler dans notre civilisation contemporaine l'industrie. Vous avez d'un côté l'agriculture et les arts correspondants, l'industrie va hot to valkaïn narama. Là, il faut vraiment étudier le Midrash pour voir les implications de ce que je vous dis très schématiquement. Narama représente une figure de distraction des métiers de l'industrie, de la même manière que les arts étaient la distraction des métiers de l'agriculture. Le Na'ama, en hébreu, ça veut dire la douce. Vous devinez ce que ça signifie. Alors voilà, si on fait une analyse d'une société devenue fonctionnelle, alors il y a une infinité de métiers, mais finalement, on peut les réduire à ces quatre directions. L'agriculture et sa distraction, l'industrie et sa distraction. Je crois que là, nous avons une analyse impitoyable de ce que c'est qu'une société devenue fonctionnelle. À ce moment-là, nous dira le Midrash, là que se passe cette scène de la fin du sursis de Caïn, lorsque du premier outil a été forgée une arme, et que cette première arme a tué le premier assassin. Je ne reviens pas sur le détail du Midrash, sans que je vous l'ai raconté la semaine dernière. Lorsque les femmes de l'émir, suivez le texte, là nous sommes déjà versets 23, ont pris acte de la fin du sursis donné à Caïn, le Midrash explique qu'elles ont refusé d'enfanter, de continuer à enfanter. Et c'est là que les mères tentent de plaider. Je vous passe les deux versets de cette plaidoirie. Et nous arrivons à la fin du premier récit. Le deuxième récit dans ce chapitre commence au verset 25. Où on apprend qu'une nouvelle lignée humaine va être suscitée dans les engendrements de Adam. Alors, entre le verset 24 et le verset 25, il semble qu'il y ait un trou. Je vais le combler par la citation du Midrash. Alors, jusqu'à la fin du verset 24, les mères tentent de plaider vis-à-vis de ces femmes, de leur demander de continuer les enfantements de telle sorte que l'humanité ait un avenir, bien qu'elles soient en danger de disparition par cette saturation de violence. Le sursis de Caïn a pris fin par la mort de Caïn, qui avait été tué par une flèche tirée par Tubal-Caïn en présence de son père, l'émer aveugle. Vous vous rappelez de cela? Le Midrash va très loin dans la précision de cette analyse, en nous disant que lorsque l'émer aveugle s'est rendu compte que ce qu'on croyait être une bête sauvage au loin était en réalité l'ancêtre Caïn qu'on avait tué, on avait mis fin au sursis, le saisissement, il a étranglé Tubal-Caïn. Il y a donc eu simultanément un règlement de compte total. Donc, l'émer était aveugle. Okay? Le poète aveugle, vous savez que c'est le grand thème, les grands poètes de l'Antiquité sont toujours aveugles. Et ils ont le regard intérieur. Et par conséquent, ils ne voient pas ce qui se passe dehors. Et donc, ils ne savaient pas que c'était Caïn, c'est Tubal-Caïn qui lui dit, ben c'est l'ancêtre, lors de saisissement, il le tue. Et il y a donc le premier assassin et son vengeur qui sont tués simultanément. Et dans cette scène absolument dramatique, les femmes interviennent. Puisqu'il n'y a plus d'avenir pour la dignité de la personne humaine individuelle, ça n'a plus de sens de mettre des enfants au monde. Mettre des enfants au monde pour une société devenue impersonnelle et de saturation de violence n'a plus de sens. Là, cette intervention de l'identité féminine dans le récit est très importante, j'y reviendrai tout de suite. Voilà où s'arrête le verset 1. Verset 25, « Vayeda Adam Od et Ishto » et Adam connut encore sa femme. On revient à l'origine. Batelet-Ben, elle enfanta un fils, Batikraet-Shemo, Sheth, elle le nomma Sheth. Là, nous allons assister à l'apparition d'une nouvelle lignée qui va finalement remplacer Abel, vraiment, tenter de le faire. Et Chava le dit directement dans le verset, la Torah explique pourquoi cet enfant, ce troisième enfant, il y avait Caïn et Abel, Abel disparu, il ne restait que Caïn, un troisième apparaît, Sheth, au moment de la sanction de la fin du sursis dans la génération de Caïn. C'est suffisamment clair, je peux avancer. Elle dit qui chat li Elohim zera acher, car Dieu m'a installé. Chat, cette racine, ça signifie placer de façon stable, de façon irréversiblement stable, inamovible. La chit, c'est pourquoi il s'appelle Sheth. Car Dieu m'a installé zera acher, une autre postérité, tahat hevel ki haavo Caïn, à la place de Havel que Caïn avait tué, ou parce que Caïn l'avait tué. Donc on voit très bien que la fonction de la lignée de Sheth, ce n'est pas du tout de substituer une nouvelle histoire humaine à l'histoire humaine qui est celle de l'assignation de Caïn, mais de reprendre en relais la fonction de Abel qui n'avait pas pu émerger de nouveau, mais de façon stable. Je veux dire que Sheth est un Abel inassassinable. C'est la grande différence entre Abel qui est éphémère, qui est, vulnérable, hein, alors que Sheth, lui, c'est un Abel, mais fort, que Caïn n'arrivera pas à tuer. Alors, c'est important. Nous allons voir donc que 10 générations de sursis supplémentaires vont être données à partir de Sheth, Nous voyons qu'il y a deux humanités parallèles. Mais voilà ce que je voudrais préciser, vous me direz si c'est suffisamment clair. Il n'y a pas là de compétition entre deux identités humaines pour faire l'histoire de l'homme. L'histoire de l'homme, c'est l'histoire de la lignée de Caïn. La lignée de Seth est d'une toute autre nature. Elle va être d'emblée définie comme étant la lignée sacerdotale. Est-ce que c'est bien clair, hein? Il n'y a pas là. Je reprends le schéma que je vous avais indiqué au début, que nous avons commencé à explorer cette histoire. Je vous ai dit, ce schéma Caïn-Abel ressemble assez, dans la suite de l'histoire du récit biblique, au schéma les nations Israël. Et je vous avais mis en garde en disant, attention, ce n'est pas le schéma exact. Le schéma exact, c'est Caïn-Seth. Parce que Abel est, plus que vulnérable. Il n'a aucune effectivité. Il disparaît. Je m'exprime autrement. Lorsqu'on explore la littérature des goïms, en particulier la littérature chrétienne, on s'aperçoit que les goïms voudraient bien projeter ce schéma. Caïn, c'est les nations, Israël, c'est Abel. Et nous donner comme vocation cette vocation du sacrifice, de se sacrifier pour l'histoire de Caïn. Je referme la parenthèse. Okay? En réalité, le schéma réel, c'est celui de Caïn, Seth. Je l'inverse. Seth, Caïn, Israël, les nations. Regardez ça en filigrane, si vous voulez, de modèle. Alors voilà d'abord ce que le Midrash nous raconte. Comment se fait-il que la Torah nous indique qu'il va y avoir la naissance d'une nouvelle lignée, celle de Seth, qui est vouée à la vocation sacerdotale avant la lettre? Rappelez-vous bien le verset 25, ce que Chava dit de Seth, il va remplacer Abel dans sa fonction. C'est bien clair. Eh bien, le Midrash écrit de cette manière. Lorsque les femmes de l'Émer ont décrété l'arrêt des enfantements, c'est un peu, si vous voulez, dans l'histoire d'une civilisation qui arrive à un certain niveau de désespérance, l'intervention de ce qu'on pourrait appeler les ligues féminines. C'est l'identité féminine qui a plus profondément l'intuition des conditions du sens de la vie. À quelles conditions la vie a un sens? Lorsque l'on pressent que ça n'a plus de sens d'enfanter parce que finalement les enfants iront se faire tuer dans une société devenue impersonnelle, qu'il n'y a pas d'avenir pour la dignité humaine, alors c'est du dedans de l'identité féminine que vient le refus. Je crois que c'est très analogue à ce que nous assistons depuis les dernières guerres mondiales. C'est corollairement aux dernières guerres mondiales que ce qu'on appelle le féminisme, mais ce n'est pas exactement le féminisme comme mouvement de revendication syndicaliste, mais comme mouvement de revendication des droits de la morale, c'est-à-dire les ligues féminines. On ne peut pas ne pas être frappé par cela que la civilisation occidentale prend conscience d'elle-même à travers son identité féminine. C'est un thème important dans l'enseignement de la Torah, du rôle des femmes. Chaque fois qu'il y a un développement dans l'histoire des générations, c'est le thème de Nashim Tzadkaniyot, vous aurez certainement l'occasion de le retrouver, dans les moments importants de mutation de l'histoire, surtout à travers l'histoire d'Israël, on voit apparaître le rôle des femmes. Vous étudierez le rôle des femmes au temps des patriarches, au temps de la sortie d'Égypte, et puis ça nous donnera des éléments pour le comprendre en notre temps. Je ne sais pas si vous avez déjà perçu cela, que ce n'est que de notre temps que dans le judaïsme traditionnel, il y a des écoles pour femmes. Est-ce que vous avez senti cela? Vous êtes né juste après, mais c'était un chidouche colossal. Je ne sais pas si vous rappelez de ce temps-là. Les premiers rabbins qui ont décidé d'ouvrir des écoles pour enseigner aux filles se sont fait traiter de rabbins. Bon, maintenant c'est la mode, mais je me souviens quand ça a commencé. C'était un chidouche. Et il n'y a pas de doute qu'il y a un problème là qui mérite qu'on y réfléchisse. Bien. Et alors, nous allons étudier aujourd'hui, donc rappelez-vous, le premier sourcil, le signe de Caïn. Ensuite, la naissance de Hana. Les deux sourcils prennent fin. Le deuxième échoue dans l'œuf, si j'ose dire. Caïn donne le nom de Hana à la ville. Et puis, lorsque ça arrive à la société fonctionnelle, le premier sourcil prend fin. La première arme tue le premier assassin. On a eu là le troisième sourcil. Le troisième sourcil, c'est la naissance de Chet. Haroun était dans votre tombe. C'est le verset 27. Et c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Qu'est-ce que représente Chet et sa lignée comme chance de récupération, de salut, de transfiguration de cette humanité qui a échoué et qui est l'humanité de Caïn. Encore une fois, nous exploiterons peut-être un autre coup. Nous exploiterons peut-être beaucoup plus tard cette notion que l'histoire, c'est l'histoire des nations. Et par rapport à l'histoire naturelle des nations, Israël n'entre pas dans les cadres des normes ou des lois d'une sociologie de ce type-là. L'histoire d'Israël est une histoire à part, selon l'enseignement de la Bible, de l'origine. Les civilisations, c'est les nations qui les font. Mais la sanctification de ces civilisations, de l'universel humain, la vocation sacerdotale, c'est Israël en tant que nation qui ne fait pas partie du nombre des 70 nations qui la représentent. Et cela, nous le retrouverons assez en détail. Nous avons le premier modèle ici. Il s'agit de sauver la civilisation de Caïn, qui est la civilisation de l'homme, les Bnei Adam, c'est les descendants de Caïn. Et il ne s'agit pas du tout d'annuler cette lignée pour la remplacer par une autre. Il s'agit de susciter une lignée sacerdotale qui tentera de la sauver, cette humanité de Caïn. Est-ce que c'est bien clair? On pourrait se demander, par exemple, quand l'identité d'Abraham apparaît, fondateur de l'identité d'Israël, pourquoi Dieu n'aurait pas décidé de supprimer cet échec des nations légoïdes et de susciter l'humanité à partir d'Abraham, et d'ailleurs nommé dans le Midrash, le nouvel Adam? Eh bien non. Nous avons vu, je crois, il y a un mois à peu près, dans ce cours, ce que Dieu a créé jusqu'au bout sera pris en sursis, en relais de sursis pour être dans l'espoir de le sauver. Et un de ces sursis, important ici, c'est le fait de susciter une lignée qui le prendra en charge. Le problème à travers lequel l'humanité de Caïn est jugée, ce n'est pas le problème religieux, c'est le problème moral. Et le problème religieux, c'est le problème de la lignée de Chet. C'est là qu'apparaît la relation à Dieu comme critère de l'authenticité humaine. Le critère de l'authenticité humaine dans la première lignée, celle de Caïn, c'est la relation entre l'homme et l'homme. C'est le problème moral. On va voir tout de suite. Alors je continue la liste des sourcils. Le quatrième sourcil, c'est la naissance du fils de Chet qui est Enoch, et que vous avez au verset 26 du chapitre 4. Le cinquième sourcil, nous allons voir l'échec au niveau de Chet. Ça, nous le verrons rapidement. On étudiera plus en détail l'échec au niveau de Enoch et le sourcil correspondant. Et je vous signale les deux autres, les trois autres. Il en reste trois, il y en a sept. À la septième génération de la lignée de Chet va apparaître un personnage très important qui est Hanoch. Ça, c'est le cinquième. Cinquième. C'est pas le même. Hanoch de Caïn, celui-là, c'est le Hanoch de la lignée de Chet. À la septième génération de la lignée de Chet. Vous l'avez au verset 22. Et l'échec est au verset 24. Alors on arrive au sixième sourcil. C'est la naissance de Noah. Le verset 29. Le sixième sourcil, c'est le sixième. Déjà, vous suivez, hein? Le sixième sourcil, c'est la naissance de Noah. Je vais reprendre la récapitulation, il me semble que ça ne correspond pas. Ça correspond, ça fait 6.
Il y a un problème au niveau de quartier.
Attendez, je reprends. Le signe de Caïn, le mot Emet, 1. Ensuite, la naissance de Hanoch de Caïn, 2. Ensuite, la naissance de Chet, 3. Ensuite, la naissance d'Enoch, 4. Ensuite, la naissance de Hanoch de la ligne de Chet, 5. Ensuite, la naissance de Noah, 6. Et à Noah sera donné 120 ans de sursis supplémentaires pour construire l'arche. Ça, c'est au niveau de l'œuvre de Noah. Et puis, il y a un septième sursis qu'au bout de ces 120 ans, je vais vous donner tout de suite les versets, Dieu annonce qu'il donne encore 7 jours de sursis. c'est le sursis ultime que nous étudierons plus en détail, et il s'agit des 7 jours du deuil de la mort d'un grand tzaddik de ces générations-là, qui était Metushelah, et que l'on appelle en français Mathusalem. Mais en hébreu, Mathusalem, vous voyez tout de suite une autre image d'Épinal, mais Metushelah, en hébreu, c'est le nom d'un grand tzaddik. Pour honorer ce tzaddik et Metushelah, Dieu a donné un sursis supplémentaire de 7 jours, qui étaient les 7 jours de la Shiva de Metushelah. Je vous donne les versets. Verset 10 du chapitre 7. Vaïhi et Shiva Tayami. Et il arriva au bout des 7. Et c'est précédé par le verset 4 du chapitre 7. Car dans 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre. Alors vous notez ces deux versets, verset 4 du chapitre 7, verset 10 du chapitre 7. Alors je reviens maintenant à la naissance de Shem. Alors il y a une grande différence dans la manière dont la Torah nous indique la naissance de Shem et dans la manière dont la Torah avait indiqué la naissance de Caïn et de Abel. Je vais prendre le verset, nous sommes à la fin du chapitre 4. Voilà, alors prenez maintenant le verset 3 du chapitre 5. Le chapitre 5, c'est la récapitulation des engendrements depuis Adam jusqu'au début. Alors, le verset 3 du chapitre 5, il y a le rappel de la naissance de Shem. Je vous lis le verset. Vayi Adam shloshim umeat shana. Et Adam était âgé de 130 ans. Vayole bidmuto ketsalmo. Et il engendra à sa ressemblance et comme son image. Vayikra et shemo Shem. Et il nomma son nom Shem. Cette expression, que l'enfant, le fils de Adam, est engendré à l'image de Adam, ne se trouve pas à propos de Caïn et de Abel. Vous comprenez cette indication? Alors là, il y a déjà derrière un sujet difficile et important, que je n'ai pas encore abordé, c'était que, d'après les traductions, nous sommes habitués à l'idée que Adam a été créé à l'image de Dieu. Vous rappelez qu'on n'a pas parlé de ça. Bon, alors je vais commencer par là. Il y a une difficulté dans cette traduction. Parce que le verset qui dit qu'Adam est fait à l'image de Dieu, tout de suite continue en disant « mâle et femelle, il les créa ». Et ça voudrait dire que dans le modèle, il y aurait aussi ce qu'il y a dans l'image, c'est-à-dire mâle et femelle. Pensez bien que, quels que soient les échappées mystiques qu'on peut avoir, il n'y a pas dans le récit de la Torah des dieux et des déesses. Je pense que c'est une drôle d'idée, comme disent les Français. C'est pas la même voiture, ça, l'idée et déesse. Il suffit de faire cette remarque pour se rendre compte qu'on ne peut pas traduire comme ça, trop simplement. Que l'homme est fait à l'image de Dieu, dans ce verset-là, on se heurte à un défi. C'est bien clair. Et évidemment, d'autres défis. L'idée que Dieu est une image. Alors, je vais vous proposer une autre traduction qui gardera le sens que la Torah veut nous donner en hébreu, bien entendu, et qui, comme d'habitude, est appuyée sur l'enseignement de Rashi. C'est-à-dire que, ici, il y a le cas particulier où la Torah nous enseigne que l'homme est créé comme Dieu a voulu le créer. Cela signifie que l'homme est créé à l'image que Dieu s'est fait de lui. Selon le projet de Dieu. Je vais donner tout de suite une traduction simple, vous compreniez de quoi je vais parler. Il y a en français deux mots. Le mot de dessin, que vous pouvez écrire D-E-2-S-I-N. Dans la première traduction, à l'image de Dieu, c'est un dessin. Okay? Il y a le mot de dessin, D-E-2-S-E-I-N, projet. Alors changez dessin par dessin, et on arrive à notre tradition. Ça veut dire, attends, je vous demanderai d'une façon générale. Si vous avez des questions de détail à poser, attendez que l'exposition soit finie. Et à la fin, s'il reste des questions, posez-les. Sinon, on perd du temps pour rien. Je veux dire, ce sont des cours difficiles, des cours en public. Dans une yeshiva chinois, on étudie à deux et à trois. Alors, on a l'habitude, à chaque phrase, on peut poser une question. C'est des cours privés. Mais dans des cours publics, il faut avoir la politesse pour les autres d'attendre que ça soit fini. Alors, s'il reste une question à poser. D'accord ? Bon, comme hier soir. Okay ? Alors, je reviens à vous. J'ai l'impression que tu dois avoir l'habitude, non ? D'après la réaction du type. Et je reviens donc au problème. On est habitué à cette idée, à l'image de Dieu, à cause des traductions. Parce qu'il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire « demout » en hébreu, qu'est-ce que ça veut dire « tselem » en hébreu. Et je vous signale une difficulté dans la lecture, c'est que très souvent vous avez des expressions un peu différentes. Je n'arriverai pas jusqu'à ces détails-là. Soit il y a « kidmuto betsalmu », soit « bidmuto ketsalmu », soit le « tselem » avant le « demout », soit le « demout » avant le « tselem ». Et suivant les versets, vous verrez des détails changer chaque fois. On ne va pas rentrer jusqu'à ce niveau de précision. Mais je vais essayer de vous expliquer de quoi il s'agit, d'après ce que les commentaires nous permettent de comprendre en hébreu de ces termes-là. Alors, premièrement, la difficulté. La difficulté, c'est l'idée que la créature soit à l'image du créateur. Alors que nous savons, d'autre part, que dans les principes de la foi élémentaire, fondamentale de la Torah, il n'y a aucune possibilité de faire correspondre quoi que ce soit de l'être de créature à l'être du créateur. Ne serait-ce que par le fait que l'être de créature est un être qui est matériel, avec une forme, une image. Donc cette idée que l'homme est à l'image de Dieu est très difficile. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Vous avez bien compris la question ? Je vous rappelle en tout cas la difficulté que j'ai signalée tout à l'heure, d'autant plus que dans le verset, premier chapitre déjà, où Dieu annonce, avec une formule qui est au pluriel, c'est encore une autre difficulté que nous verrons d'autre part. Je vais faire l'homme à mon image, tout de suite le verset dit, mâle et femelle. Alors là, il y a une difficulté qui nous bloque. C'est bien clair ? Bon. Les grands théologiens du Moyen-Âge, pas seulement d'ailleurs dans la tradition juive, mais je parle surtout de la tradition juive, se sont posé la question. Il y a une réponse simple, mais qui, au fond, je me demande si elle ne fait pas plus d'évacuer la question que de donner une réponse. C'est de dire que c'est la capacité de connaissance qui est ce qui peut être de commun, comme une image et un modèle, etc. Une image et un modèle entre l'homme et Dieu. C'est en particulier Maïmonide. Il dit, en quoi sommes-nous à l'image du Créateur ? Par la capacité de connaissance. C'est une réponse qui est nécessaire parce qu'il en faut une. Mais au fond, ce n'est pas une réponse qui arrive finalement. Une réponse philosophique qui n'arrive pas à résoudre la difficulté. Il y a une autre réponse qui est donnée dans une toute autre perspective, dans un grand petit livre qui est le Nefesh Chaim du Rav Chaim de Lviv, sur lequel je me référerai peut-être d'autre part, mais nous allons pénétrer simplement, lentement, dans le sujet, dans cette étude. En fait, ça se relie à une autre question d'exégèse. Et qu'il y a eu une discussion de l'origine, de la rencontre entre la tradition biblique et la tradition philosophique des Grecs, entre les rabbins et les philosophes grecs. Cette discussion, nous avons des traces dans le Talmud et dans le Midrash. Par le fait que le mot dont la Torah se sert pour dire Dieu est au pluriel. C'est le mot Elohim, avec la désinence im. Donc, les grammairiens nous aident à dire c'est un pluriel de majesté. Comme par exemple, les rois de France disaient « nous, premier ministre, nous, roi de France ». Mais ça résout pas quand même complètement la difficulté. C'est là que je m'appuie un peu sur l'enseignement de la Freine de Vérité, qui dit « il faut le comprendre d'après l'expression « Hachem, vous et Elohim ». C'est lui qui est un, unique, qui est ce que vous, les hommes, appelez les dieux. Ça veut dire l'unité de l'ensemble des valeurs. Et l'ensemble des valeurs est un pluriel, mais c'est un pluriel à l'indice de l'unité. Il, lui, est les dieux. Vous, Hachem, vous, Ha'elohim. Et par conséquent, dans la catégorie du monothéisme de la Torah, ce mot de Elohim, qui a une forme plurielle, a une signification du singulier absolu. Est-ce que c'est suffisamment clair ? Il faut traduire de cette manière, lui qui est, parenthèse, ce que les hommes appellent les dieux. Parce que, effectivement, l'idée de divinité, c'est en hébreu l'idée de force divine, le mot elle, et qu'il y a des forces divines différentes qui ensemble sont une, et c'est lui, celui qui est les forces divines, que je m'appelle les dieux. C'est ce que vous avez fait. Mais ça, l'égoïme n'a pas accepté cette position. Ce n'est pas qu'ils ont refusé la thèse d'Israël qui croit en un seul Dieu. Ils ont discuté le fait que dans la Bible, le mot qui veut dire Dieu est au pluriel. Et donc la discussion est formulée ainsi, combien de dieux s'y sont mis pour créer le monde? Mais en réalité, la question est portée sur l'homme. Et chaque fois que les Grecs, les philosophes grecs ont demandé aux rabbins combien de dieux y a-t-il, le verset qu'on leur cite pour montrer que le verbe que gouverne le sujet éloquim au pluriel est un verbe singulier concerne la création de l'homme. Est-ce que vous avez compris ma réponse? Par exemple, je schématise, si vous voulez, je peux vous donner le texte, en fait, ça me prendrait trop de temps. Combien de dieux ont créé le monde? Qu'est-ce que les rabbins veulent répondre? Tu me dis un substantif au pluriel, mais le verbe est au singulier. Ils auraient pu citer, d'après le verset, Bereshit, Bara, Elohim. Vous voyez, Elohim est au pluriel, mais Bara est au singulier. Ce n'est pas ce verset ici. Il dit, il y a tout un verset, Yom, Bero, Elohim, Adam, Alpene, Adama. Le jour où Dieu, et le mot est au pluriel, a créé, le verbe est au singulier, l'homme sur la terre. La réponse des rabbins concerne la création de l'homme. Alors la question des philosophes, des élèves, concernerait la création du monde. Je reschématise. Question, combien de dieux ont créé le monde, puisque votre mot est au pluriel? Réponse des rabbins, c'est un seul qui a créé l'homme, puisque le verbe concernant le verset de la création de l'homme est au singulier. Parce qu'en réalité, la question se pose vraiment de la multiplicité des forces divines qu'à propos de l'homme. Pourquoi? Eh bien, nous sommes dans un monde qu'on peut définir comme un monde de la multiplicité. Il y a des manières d'être radicalement différentes, des existants radicalement différents. Mais chacun d'entre ces existants peut être amené à un principe unique, sauf l'homme. L'homme est un être paradoxal dont on ne peut pas rendre compte par un principe unique. Et c'est pourquoi les rabbins ont compris que véritablement la question de ces philosophes était à propos de l'homme, c'est l'homme qui pose le problème du polythéisme et pas les choses du monde. C'est suffisamment clair, souvenir, c'est pas trop rapide. Et c'est pourquoi d'emblée la réponse qu'ils ont donnée, c'est à propos du verset qui décrit la création de l'homme. Oui, c'est ce que je vais expliquer. L'homme est le siège d'une dualité absolue. Et on pourrait énumérer cette dualité à différents niveaux. Je vais choisir celle que le Midrash choisit à propos du verset 7 du chapitre 2 que vous allez prendre sous les yeux. Verset 7 du chapitre 2 qui décrit la formation de l'homme. Alors, je prends ce verset avec vous. Et je vous donne la référence du texte de la Gemara sur lequel je vais me baser dans cette enseignement. Il s'agit de la Maseret Brachot, page 61. Ah, la Maseret Brachot, oui. Alors, si tu veux la prendre, 61, ah. Mais n'oubliez pas de quoi nous étions partis. C'est que Chet est créé dans la ressemblance d'Adam. Ça veut dire dans le projet que Dieu avait pour Adam. Et l'identité de Chet est très haute par rapport à celle de Caïn. Parce que par rapport à Caïn, la Torah ne dit pas que Caïn était dans le projet de l'identité d'Adam. C'est un petit homme. Vous avez compris ce que je veux dire? Non, pas encore. Je sens que vous n'avez pas compris. Je veux dire que, n'oubliez pas en tout cas le problème duquel on parle. La différence d'identité chez Chet et chez Caïn, c'est pas la même manière d'être homme. L'identité de Caïn est une identité humaine à l'origine de son histoire très primitive, alors que l'identité de Chet est d'emblée dans la perfection ultime, très haut. C'est ce qu'indique le texte en disant que Chet a été créé dans le projet que Dieu avait pour Adam, alors que Caïn a été engendré au début de l'histoire de l'homme. On va annuler tout ça. Et je reviendrai donc sur ce verset 3 du chapitre 5. Mais pour le moment, regardez bien ce qu'il y a écrit dans le verset 7 du chapitre 2. Vaïtse, Rachem Elokim et Adam, Afar Min Adam. Vous voyez pourquoi c'est difficile de lire ce texte. Je vous avais dit le premier chapitre, la première génération, on lèvera à la fin de l'année. Parce qu'il faut expliquer chaque détail. Et ça va prendre beaucoup de temps. Voilà. Et Hachem Elohim, il y a un premier problème, c'est ni Elohim seul, ni Hachem seul, c'est Hachem Elohim, et c'est le premier, le deuxième point. Dans le chapitre que c'est ainsi, il nous enseigne aujourd'hui, a formé, et à Adam, l'homme, Afar Min Adama, poussière de la terre. Alors, encore une parenthèse de lecture. Bien sûr, ce n'est pas la poussière que vous avez quand vous prenez un balai, une balayée à la poussière. Ce sont des traductions invraisemblables. Et qui, à travers le temps de l'histoire de l'exégèse, le mot a changé de sens. Et vous avez ici une expression mortuaire, macabre, poussière tuée, poussière de descendre. C'est pas dit tout ça dans le texte. Pas. Vous imaginez un Dieu qui crée le monde normalement de façon merveilleuse, comment il s'y prend pour créer l'homme, un balai de la poussière. Et des histoires de poussière. Hein. Tout ça, ça vient des traductions. C'est clair ce que je dis là. Et ça vient des traductions. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire Afar? Afar, ça peut vouloir dire, hein, mais sans du dictionnaire, en fin de compte, ça peut vouloir dire poussière. Mais c'est d'abord ce qu'en français on appelle le terreau. Ça veut dire ce qui est vivant dans la terre. C'est ça le Afar. Regardez, dans la racine Afar, vous avez une désinence qui se rattache à la racine Peri. Les deux dernières lettres de Afar, Perej. La terre, en tant qu'elle est capable, en fin de compte, par l'élaboration qui fait que du terreau sur une branche d'un arbre vient un fruit, ce qui est bon à manger. Ça veut dire que notre corps, le corps, est fabriqué, en fin de compte, formé, en fin de compte, de ce qui est vivant dans la terre. La preuve, c'est que pour perpétuer sa vie, on mange de la terre élaborée en fruits. Vous voyez, c'est clair ? C'est-à-dire, essayons de récapituler ce qui se passe depuis le terreau de la terre, le Afar Min Adama, jusqu'au péri. Et c'est ça qu'on mange. Pourquoi ? Parce qu'il faut nourrir le corps qui est fait de ce terreau-là. C'est pas plus compliqué que ça. Réagissez un peu, parce que... Donc, c'est clair ? Donc, alors ne croyez pas que c'est avec la poussière. C'est avec de la terre, mais dans le sens de ce qui est vivant dans la terre. Le terreau, on vient en français. Je ne sais pas s'il y a des gens du terroir, ils ont peut-être un mot plus... Vous avez par exemple une traduction de type esthétique grec. Alors vous aurez il prit de la glaise. La glaise pour faire une statue. Vous voyez comment les traductions sont orientées par les mentalités culturelles. Est-ce que c'est clair? Alors allez savoir quel fossoyeur a traduit une fois poussière. Voilà, j'espère vous aider à vous déconnecter de cette emprise du style biblique. En français, qui n'est qu'un style de sacristie. D'ailleurs, il y a un peu cette odeur de la poussière. Et je reviens au premier mot. On a remarqué que le mot de Vaïtzer n'est pas écrit comme il devrait l'être, en fait. Il y a deux yut. Alors que, lorsque le texte va indiquer la formation de l'animal, au verset 14 du même chapitre, le mot de Vaïtzer est écrit avec un seul yud, comme il devrait s'écrire normalement, grammaticalement. Alors, comparez les deux versets. Et là, la Gemara, je vous ai donné la page, c'est 61a, va nous donner trois explications de cette dualité. Même si on n'étudie que ça aujourd'hui, ça vaudra la peine, mais rappelez-vous votre problème. C'était que ce sursis donné à l'humanité de Caïn par Enoch, c'est de lui donner d'emblée une identité messianique, comme grand prêtre. Comme fondateur d'une lignée sacerdotale, et on verra pourquoi il faut fonder une lignée, pour tenter de reprendre en charge l'humanité de Caïn, de la transfigurer et de la sauver. Vous voyez quelle est l'intention qu'il y a dans ces récits. Alors, c'est là que j'étais arrivé à la notion de cette traduction à l'image de Dieu, substituer la notion du projet que Dieu avait pour l'homme. Cette indication qui nous est donnée dans la Torah, c'est pour nous confirmer que c'est bien Dieu qui a créé l'homme comme il est. Parce que tout devrait être dit selon le projet de Dieu. Pourquoi la Torah indique que pour l'homme? Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Parce que c'est vraisemblable pour tout ce qui est. Mais pour l'homme, il y a un problème que je vous ai cité tout à l'heure, de pluralité. Combien de principes absolus ont collaboré